Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur RMC Story, il est 6h57, on est ravis de vous retrouver, c'est Apolline Matin qui démarre tout l'été avec vous, on se réveille ensemble avec Victor Pourchet, avec Charlène Villemer, on va faire bien sûr le point sur la météo dans un instant avec Manu Le Chypre qui va nous rejoindre, avec Quentin Vinet déjà prêt pour le journal de 7h, on suit bien sûr ce matin le front des incendies avec ses milliers d'évacués en Gironde, Lacanau, l'Age Cap Ferret, au moins 12 000 personnes évacuées, un incendie très violent qui est en cours. On vous donnera toutes les dernières infos sur place dès le début du journal de 7h. Le Var est aussi en alerte maximale avec le vent qui va reprendre. Vous habitez ces régions, vous témoignez, on vous attend au 3216 et on lit tous vos messages au 06 12 424 424. Ça se passe sur WhatsApp. À la une aussi, les morts de la canicule. Près de 6000 décès supplémentaires en l'espace de 2 semaines à la fin du mois de juin. Chiffre inédit depuis 2003. Alors ces morts auraient-ils pu être évités? Je poserai la question tout à l'heure à la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Invitée d'RMC ce matin, elle sera avec nous à 8h45. C'est sa première prise de parole depuis qu'on connaît ces chiffres. Et puis on sera à 7h40 avec le médecin urgentiste de l'hôpital de Saint-Denis, Mathias Vargon. Est-ce que l'hôpital tient? Est-ce qu'on est prêt à affronter d'autres canicules potentiellement dans les semaines qui viennent? Et les clims sont-elles arrivées? On en parle à 7h40, vous êtes soignant, vous connaissez aussi peut-être quelqu'un qui a succombé aux fortes chaleurs. Venez témoigner, venez interpeller la ministre de la Santé, c'est au 3216 et sur WhatsApp. Enfin, Zidane, ça y est, on a la date, 28 juillet. Ce sera mardi prochain. Il deviendra le sélectionneur des Bleus. Ça y est, il a signé son contrat, nous dit RMC Sport. Venez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est l'homme de la situation pour reprendre la suite, pour prendre la suite avec les Bleus? 06 12 424 424 sur WhatsApp, le 3216 au téléphone. On vous attend. Allez, d'abord la météo avec Charlène Villemer. Et donc ce risque d'incendie qui est toujours très élevé dans le sud.
Oui, exactement. 5 départements sont concernés, notamment l'Aude, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et puis le Var. Le Mistral se renforce aujourd'hui en Provence, ce vent d'ouest aussi sur le littoral varois. Et puis en Corse, le Mistral va dépasser les 60 km/h aujourd'hui. Toutes les conditions sont réunies donc pour ce feu, ce risque feu de forêt très élevé. Partout ailleurs, le soleil va encore dominer aujourd'hui. Les nuages sont encore présents sur les Hauts-de-France. Au lever du jour, le thermomètre affiche des températures douces au nord entre 10 et 15 degrés. Ce matin, on est entre 15 et 20 degrés au sud, jusqu'à 24 sur le littoral méditerranéen. Et puis les maximales, elles vont encore augmenter aujourd'hui, notamment dans le sud. On sera entre 37 et 39 degrés, notamment dans le Var.
C'était la météo sur RMC. Bon réveil avec Apolline Matin.
Très bon réveil, merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et à la une, ce très gros incendie en Gironde.
Un feu qui a pris dans la forêt, tout près de la côte, effectivement, 2000 hectares déjà ravagés et 12 000 personnes évacuées depuis hier soir. Certains l'ont été durant la nuit. RMC sur place en direct depuis la Gironde, mais aussi du Var, où les pompiers luttent toujours contre les flammes ce matin dans la moyenne montagne. On va voir tout ça. On va détailler aussi le nouveau bilan de la canicule du mois de juin. Santé publique France, donc, qui a compté près de 6 000 décès de plus que d'habitude, inédit depuis 2003. Et on a la date, ça y est, c'est mardi, donc Zinedine Zidane va devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football.
C'est la forêt de pins en Gironde qui brûle toujours ce matin.
Oui, le feu a pris hier après-midi sur la commune de Somos, entre le bassin d'Arcachon et Lacanau, avant de se propager sur la commune du Porge, où se trouvent énormément de vacanciers à cette époque de l'année. Ce feu a déjà détruit 2000 hectares de forêt et donc 12 000 personnes ont été évacuées. 7 000 rien que cette nuit. Pierre Bourgès, vous êtes d'ailleurs en direct ce matin pour RMC, en direct de Lacanau. C'est une des communes qui est mobilisée pour accueillir tous ces évacués qui ont dû partir en vitesse, des campings notamment durant la nuit.
Oui, en fait, tout a commencé vers minuit. Les maires, comme ici à Lacanau où je me trouve, ont reçu un coup de fil des autorités. Ils vont devoir accueillir une première salve de 3000 vacanciers sur leur commune. Dans le même temps, à l'Age Cap Ferret, la gendarmerie fait du porte-à-porte pour ordonner l'évacuation de certaines habitations. Dans les campings, la sécurité s'en charge, mais tout n'est pas si facile. Je vais vous donner l'exemple des vacanciers du village de la Génisse. À une quinzaine de kilomètres d'ici, la seule route qui amène à ce village est fermée à cause du feu trop proche. Donc près de 350 véhicules ont pris la direction de la plage, ont roulé sur la piste cyclable, puis sur les chemins forestiers pour rejoindre Lacanau. Évacuation inédite, il faut le dire, pour ces touristes qui s'est quand même déroulé plutôt dans le calme, même si pour certains comme Hélène cerne sous les yeux, reste à savoir comment le feu va évoluer. Écoutez.
C'est vrai que c'est un peu flippant parce qu'on part, on laisse tout et c'est pour certains d'entre nous, c'est presque une vie, quoi. C'est une maison de famille, hein. C'est un cabanon en bois, mais c'est une maison de famille.
Lèche-Cap-Ferré, Biganos, Ourtin ou encore Lacanau ont ouvert leur salle des fêtes. Là où je me trouve, des vacanciers arrivent toujours à 7h ce matin et ils sont pour l'instant 120 à dormir ici, sans compter ceux qui ont été réorientés vers des campings de la commune.
Alors on entend ce récit à votre micro ce matin, Pierre Bourgès. Les pompiers de Gironde, ils parlent d'un feu très virulent.
Oui, Quentin, vous le disiez, 2000 hectares ont brûlé. Hier, à 21h, c'était 800. La taille de l'incendie a plus que doublé cette nuit. Pourquoi ? Eh bien déjà, tout simplement parce que ici, autour de nous, il n'y a que des forêts de pins très inflammables, évidemment. Les pompiers ne sont pas non plus aidés par le vent qui, pendant une partie de la nuit, a été largement défavorable et a poussé le feu vers le Cap Ferret, d'où les évacuations préventives. Et pour éviter tout sur-incendie, la préfète a interdit dès aujourd'hui les travaux en forêt toute la journée, d'autant que l'origine du feu pourrait être liée à des travaux de débroussaillage, une origine humaine donc, comme dans 90% des cas. Le procureur de Bordeaux a d'ailleurs indiqué durcir les sanctions contre les auteurs de départ de feu, même si c'est accidentel.
Pierre Bourgès, en direct de Gironde ce matin pour RMC, avec cette image incroyable, l'un des colonnes de pompiers au milieu de la forêt de pins, avec le ciel orange même dans la nuit, au-dessus de cette forêt qui brûle. Alors il y a ce feu en Gironde, et puis il y a toujours le très gros incendie dans la moyenne montagne du Var, qui a ravagé 2500 hectares de forêt tout autour des villages provençaux, pittoresques, Cotignac, Corinthe, Montfort-sur-Argent aussi, où se trouve notre envoyé spécial Célestin Bougère, qui nous raconte le formidable élan de solidarité des habitants et même des sinistrés à l'égard des pompiers.
La lumière de la cuisine de la salle des fêtes est la seule visible dans la nuit. À l'intérieur, une petite dizaine d'habitants du village s'activent encore autour d'une table recouverte de nourriture pour les pompiers. Stéphanie est en charge des opérations.
Ça a pris deux jours qu'on finit les sandwichs.
Vous en préparez combien ?
900, je pense, en tout.
Là, on a des colonnes qui arrivent encore et donc il faut les nourrir pour qu'ils soient en forme. C'est la moindre des choses.
Est-ce qu'on en coupe à la...
Louis, 13 ans, est aussi venu en renfort.
On est plutôt content de faire ça pour les pompiers, pour ce qu'ils font pour nous aussi. Ça choque, parce que du jour au lendemain, on voit des pompiers arriver. Oui, ça choque.
Les gyrophares des camions de pompiers éclairent la pièce à chaque passage et l'odeur de la nourriture ne masque pas celle des fumées. Michael a du mal à effacer de sa tête les images de l'incendie.
Ça vient sur nous avec la vitesse d'un cheval au galop. C'est très, très impressionnant. On pense pas, on est dans l'action. On fera le point bien après.
Dans la pièce voisine, Christine installe son matelas. Elle va passer la nuit ici. Sa maison est menacée.
Ça risque de continuer encore. Donc, on attend.
Il y a un peu d'angoisse quand même de rester ici.
Oui, c'est sûr. On ne sera pas tellement de nouvelles, mais voilà, c'est pas évident.
Comme beaucoup ici, Christine craint cette nouvelle journée où un fort mistral pourrait attiser de nouveau les flammes.
Et alors dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, assure que nous disposons de suffisamment de moyens aériens pour faire face à tous ces incendies, façon de répondre aux critiques et maintenant notamment de syndicats de pompiers. Il donne le chiffre de 12 500 départs de feu et plus de 40 000 hectares brûlés depuis le début de l'année. C'est déjà plus qu'en 2022, année marquée par de gros brasiers, on s'en souvient notamment dans le sud-ouest de la France.
Des incendies qui interviennent dans un contexte de sécheresse, après trois épisodes de canicule, et Santé publique France qui évoque cette surmortalité inédite pendant la canicule du mois de juin.
Avec ce chiffre de 6000 décès quasiment de plus que d'habitude sur la deuxième quinzaine du mois de juin, quand on battait les records de chaleur absolument tous les jours. Bilan inédit depuis la canicule de 2003 et ce constat terrible, des Français sont morts de chaud chez eux, notamment des personnes âgées. C'est ce que vous nous dites ce matin, Louise Salé.
Oui, comme Louisette, 93 ans, morte déshydratée en région parisienne. Il faisait extrêmement chaud dans son appartement sans volet quand Odile, une voisine, y entre le dimanche 28 juin.
J'ai réussi à forcer la porte, en fait. Et puis, j'ai retrouvé Louisette étendue par terre, inconsciente. Et elle s'est éteinte le lundi à l'heure du déjeuner. C'est terrible.
Louisette est partie à l'hôpital comme près de la moitié des personnes décédées fin juin, tandis qu'un tiers sont mortes à domicile. Jean-François Bouscarin, vice-président de la Fédération nationale des infirmiers, regrette que les soignants n'aient pas accès aux coordonnées de ces personnes vulnérables qui sont recensées par les mairies.
La mairie ne peut pas me donner, moi, infirmier de territoire, le nom des personnes qui sont toutes seules pour des questions de coordonnées qu'on doit préserver. Donc la mairie, effectivement, téléphone pour demander aux papis, aux mamies s'ils vont bien. Mais il faut aller les voir.
Rendre visite à ces patients âgés, isolés et à risque permet permettrait peut-être, selon lui, de réduire la surmortalité en période de canicule.
Alors, est-ce que ces morts auraient pu être évitées? Est-ce qu'on est prêt à affronter de futurs nouveaux épisodes de canicule? Deux invités ce matin pour tenter d'y répondre. D'abord, l'urgentiste Mathias Vargon qui sera avec nous dans moins d'une demi-heure. Et puis, la ministre de la Santé qui vient répondre ce matin sur RMC. Ce sera tout à l'heure à 8h40. Et vous venez en débattre, l'interpeller. Je vous attends au 32-16.
C'est le psychodrame de la semaine au gouvernement. Il faut s'accrocher pour suivre. Finalement, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, ne démissionne pas. C'est pourtant ce qu'elle avait annoncé. Après, souvenez-vous, l'adoption définitive de la loi d'urgence agricole, loi qui a réintroduit deux pesticides interdits en dénonçant un nouveau recul du gouvernement. Mais eh bien, elle a changé d'avis, Romain Cluzel. Elle dit maintenant qu'Emmanuel Macron n'a pas accepté sa démission et donc eh bien, qu'elle reste.
Monique Barbu l'assure, elle restera tant qu'elle a la garantie de pouvoir agir. La ministre de la Transition écologique liste les garanties qu'elle dit avoir obtenues pour rester au gouvernement. Un décret pour baisser le taux de cadmium dans les engrais, la protection des captages de l'eau potable ou encore un débat sur les polluants éternels PFAS, sauf que la plupart de ces mesures étaient déjà dans les cartons. Alors ce vrai faux départ du gouvernement est vivement critiqué à la fois dans l'opposition et au sein du bloc central. Un vaudeville un peu ridicule, tacle un socialiste. Pendant qu'un député MoDem regrette les gesticulations de la ministre. Plusieurs parlementaires s'interrogent désormais sur la crédibilité de Monique Barbu, d'autant plus qu'aucun dossier majeur ne pourra avancer dans les prochains mois entre les débats sur le budget et la campagne présidentielle.
Des peines allant jusqu'à 5 ans de prison assorties de sursis prononcées hier à Sarreguemines en Moselle à l'encontre de 6 jeunes âgés d'une vingtaine d'années qui avaient tendu des guet-apens à au moins 7 personnes homosexuelles. C'était l'année dernière. Ils utilisaient une application de rencontre avant d'agresser leurs victimes, cagoulées en les forçant notamment à retirer de l'argent. Le parquet de Paris réagit à la mort de Daniel Ciad, le rabatteur présumé dont le nom apparaît des milliers de fois dans les dossiers de l'affaire Epstein. Le parquet fait savoir que l'enquête pour traite d'êtres humains en bande organisée, le visant, continue.
On va revenir sur ce dossier après le journal. Il est 7h09 sur RMC. On a enfin la date, c'est mardi que Zinedine Zidane deviendra le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de foot.
On va passer de DD à double Z. On en parlait énormément depuis hier sur RMC, Clément Brossard, car l'attente est énorme. Et ça y est, donc ça se précise.
Annonce sur les réseaux sociaux, communiqué ou conférence de presse, la forme de l'officialisation de Zinedine Zidane comme nouveau sélectionneur reste secrète, mais la date, elle, est connue. Zizou sera officiellement à la tête des Bleus mardi prochain, le 28 juillet 2026, soit 20 ans et 19 jours après son dernier match sous le maillot de l'équipe de France. Zinedine Zidane a déjà signé son contrat qui pourrait monter jusqu'à 450 000 euros primes comprises. Il devrait être entouré par un staff mixte de plus de 25 personnes entre ses fidèles adjoints du Real Madrid et d'anciens joueurs de l'épopée 1998. Une armée en soi qui aura pour but de faire remporter au bleu de Zidane le prochain Euro en 2028 et apporter, qui sait, une troisième étoile sur le maillot après avoir guidé la sélection vers son tout premier sacre mondial. C'était il y a 28 ans.
Bon, alors on les chambre en football, mais c'est l'année de la Belgique hein, sur le Tour de France en cyclisme. Sixième victoire pour les Belges hier avec Jasper Philipsen. Ça s'est passé à Voiron avant la première des trois étapes de montagne aujourd'hui dans les Alpes entre Voiron et Orcières, Merlette, avec 3900 mètres de dénivelé au programme aujourd'hui pour les coureurs.
Et ce sera à suivre sur RMC, l'intégral tour tout l'après-midi, bien sûr sur RMC. C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 7h10 et on va retourner en Gironde. On est en ligne en direct avec le maire de la ville de Lacanau, Laurent Perrondet. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci monsieur le maire d'être avec nous en direct après cette nuit qu'on racontait dans le journal de 7h où de très nombreux habitants du secteur ont dû évacuer au cœur de la nuit. D'abord, quelle est la situation ce matin? Est-ce que il y a toujours une inquiétude sur cet incendie? Est-ce que le feu menace toujours des habitations?
Alors des habitations, mais aussi la forêt bien sûr, mais aussi les structures touristiques qui sont nombreuses et aujourd'hui très remplies. Donc aujourd'hui, on est nous en soutien de ces communes-là, puisqu'on est à 13 kilomètres à peu près du feu, et on reçoit tous les pompiers qui viennent se restaurer, se reposer sur nos structures, et tous les gens qui ont été évacués ont été distribués sur plusieurs communes, à la fois du bassin d'Arcachon et sur le Médoc autour de chez nous.
12 000 personnes évacuées, c'est ça, au cœur de la nuit. Est-ce que vous étiez préparé à un tel scénario?
Malheureusement, l'habitude nous permet d'anticiper ce genre de problème. Donc on a su ce départ de feu à Somos. Quand on a regardé les conditions météo, on s'est préparé à ouvrir nos structures. Donc on était prêt, bien sûr, à rendre service. Et les communes qui sont le plus touchées aujourd'hui comptent sur nous, justement, pour accueillir tous ces sapeurs-pompiers, ces gens qui ont été évacués sur les communes limitrophes.
Vous les accueillez dans quel bâtiment?
Ben là, on est sur les COSEC, salle des fêtes, et après, on utilise aussi nos cantines, on ravitaille, et on a beaucoup de partenaires. Donc, c'est une journée qui a été très difficile, une nuit compliquée, surtout au lendemain du décès de deux de leurs collègues. Les pompiers ont eu beaucoup de difficultés, donc c'est vrai que c'est une journée dramatique, c'est des moments que l'on ne souhaite pas, parce qu'on est attaché à notre massif forestier. Et aujourd'hui, c'est compliqué d'évacuer tous ces touristes qui sont sur les structures touristiques.
Que vous disent les pompiers ce matin? Ils ont été, j'imagine, sur le pont toute la nuit avec cet incendie qui a progressé très très vite, puisqu'on est maintenant à quelques 2000 hectares brûlés, alors qu'on parlait de quelques centaines à peine hier soir. Ce feu, il continue de progresser?
Les vents se sont calmés depuis 4h du matin, donc il y a des tentatives de contre-feu qui ont été en place ce matin. Le problème, c'est qu'on risque d'avoir 50 km/h de vent dans la journée, avec des chaleurs à 35 degrés, un taux d'humidité très très faible. Donc c'est ça la crainte de la journée. On a peur de ces reprises, de la violence qui était tout à fait extraordinaire. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc on a beaucoup souffert hier et cette nuit, et on va observer attentivement comment ça se passe aujourd'hui.
Est-ce que le vent continue de pousser cet incendie vers les zones les plus touristiques, notamment autour de Lacanau ou du Cap Ferret?
Alors oui, c'est plutôt aux alentours de l'Eche Cap Ferret, puisqu'on a les structures évacuées sont au Grand Croc, le village de la Génie aussi sur la commune du Gorge. Donc on est à cette limite, il faudrait que le feu soit fixé à cette limite-là, parce qu'après c'est la presqu'île du bassin du Cap Ferret qui serait en danger. Donc on est tous très inquiets, mais on rassemble nos forces, nous on est en soutien et on se met à disposition bien sûr de toutes ces communes.
Ouais, on comprend que c'est une journée décisive, hein, qui commence pour les pompiers avec de gros moyens déployés tout près donc du bassin d'Arcachon du côté du Cap Ferret. Vous nous dites ce matin que la presqu'île est menacée. Merci Laurent Perrondet pour ce point en direct ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le maire de Lacanau en Gironde, ville qui accueille de très nombreux évacués depuis cette nuit. Il est 7h14.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on vous en parlait dans le journal de Quentin Vinet, ce coup de tonnerre dans l'affaire Epstein. Daniel Syad, soupçonné d'avoir joué le rôle de rabatteur pour le milliardaire Jeffrey Epstein, a été retrouvé mort lundi à son domicile en région parisienne. Il était au cœur de l'enquête. Bonjour Nathalie Buquet.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre ce matin en plateau. Vous êtes avocate, membre de l'association Innocence en danger, qui accompagne un certain nombre de victimes. Pour vous, c'est la lenteur de la justice qui est le problème, puisque Daniel Syad n'aura jamais eu le temps d'être entendu dans cette affaire. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h17, il était au cœur du système Epstein, cité 2000 fois dans les documents publiés par la justice américaine. Daniel Syad, recruteur de mannequins, accusé d'avoir joué les rabatteurs pour le milliardaire pédocriminel Jeffrey Epstein, a été retrouvé mort lundi soir à son domicile de Colombes, près de Paris. Bonjour Nathalie Buquet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocate, membre de l'association Innocence en danger, qui accompagne plusieurs plaignantes. Et votre parti pris ce matin, c'est de dénoncer la lenteur de la justice, parce que Daniel Syad, il était au cœur de l'enquête, mais il n'aura jamais eu le temps d'être entendu.
Exactement. Ça a été hier un sentiment de grande colère au sein de l'équipe des avocats d'Innocence en danger, qui depuis 2019 se mobilise pour que toute cette affaire soit investiguée en France, pour qu'on puisse avoir une vraie affaire française. Monsieur Syad était déjà apparaissait déjà dans la procédure qui avait été initiée au moment où Monsieur Brunel était mis en examen. C'est vrai que au cours du début de l'année 2026, des plaintes l'ont visé directement, mais pour autant, Monsieur Syad était évoqué par d'autres victimes, d'autres jeunes filles, dès 2020. Et donc c'est vrai que depuis hier, c'est un sentiment de grande frustration, un sentiment amer de se dire dans ce dossier encore une fois, la justice arrive trop tard.
Comment vous expliquez ces lenteurs ?
Je ne me l'explique pas, on ne se l'explique pas, tout simplement parce que malgré les annonces du parquet de Paris en début d'année, il s'agit d'enquêtes préliminaires auxquelles nous n'avons absolument pas accès. Depuis plusieurs mois, nous demandons à ce qu'un juge d'instruction soit saisi, ce qui permet aussi aux uns et aux autres de se constituer partie civile, d'avoir accès à la procédure et puis aussi de faire des demandes d'actes.
Cette enquête, elle a été ouverte au mois de février.
Mais on est sous le régime de l'enquête préliminaire, on n'a pas de juge d'instruction, donc tout est à la diligence du parquet.
Et depuis, vous ne savez pas ce qui se passe?
Non, on ne sait pas ce que... Alors ça, c'est le principe. Quand on est en enquête préliminaire, effectivement, les parties, et nous ne sommes pas parties en tant que telles à l'instant T, nous avons fait des signalements, mais nous ne sommes pas parties en tant que telles à cette procédure, et donc nous n'avons aucun droit de regard, ni même de demande d'acte dans cette procédure.
Il y a bien eu des auditions, certaines plaignantes ont été entendues?
Nous savons qu'il y a eu des auditions, notamment de ces nouvelles victimes, nous savons que des témoins ont été entendus, nous savons aussi, puisque ça avait été annoncé par le parquet de Paris, que la procédure de 2019 a été exhumée pour qu'on puisse de nouveau l'examiner. Ce qu'il se passait concernant M. Siad, à savoir, est-ce qu'une interpellation, est-ce qu'une sonorisation de son domicile, est-ce que des écoutes étaient mises en place? Pour l'instant, nous ne le savons pas et probablement nous ne le saurons jamais.
Alors, qui était-il, ce Daniel Siad, et quel était son rôle dans cette affaire, en tout cas son rôle présumé?
Alors, son rôle présumé, a priori, ce serait de recruter des jeunes filles pour monsieur Epstein. Vous avez un certain nombre de journalistes qui ont mené des investigations et qui ont dit qu'ils avaient rencontré environ une centaine de jeunes femmes qui avaient été approchées par Siad pour le mettre en contact avec Jeffrey Epstein. Alors, ensuite, véracité ou pas, je peux pas vous l'affirmer. Aujourd'hui, ça résulte d'investigations par des journalistes en tant que tels pour la justice.
Et des déclarations de ces plaignantes qui disent avoir été contactées par lui.
Pour autant, comme l'a dit son avocat, à l'instant T, il est mort en étant innocent, puisqu'il n'a jamais été entendu, jamais été mis en examen, jamais placé en garde à vue.
Elles sont combien, ces plaignantes, ces victimes présumées à avoir porté plainte, à avoir témoigné?
Alors, il y a celles qui ont déposé plainte pour des faits de viol concernant Monsieur Siad. Elles seraient entre 5 et 7, je ne sais plus exactement. En revanche, sur celles qui auraient été approchées par Monsieur Siad pour être mises en relation avec Jeffrey Epstein, on serait environ une centaine de personnes.
Une centaine de personnes.
Mais pas nécessairement que des Françaises, dans différents pays.
Ces femmes qui ont pris la parole, ce qui est déjà très courageux, n'auront pas de réponse.
N'auront pas de réponse et je peux vous dire que au moins l'une d'elles aujourd'hui va engager une action en responsabilité contre l'État avec son avocat, et les avocats d'Innocence en danger et Innocence en danger se tiendra à ses côtés, parce qu'on considère que dans ce dossier ces victimes n'auront pas de réponse parce que la justice a mis trop de temps, une justice
contre l'État pourquoi, pour négligence,
pour déni de justice. On considère que lorsque les délais sont anormalement longs, la Cour de cassation a consacré le fait que c'était un déni de justice. Est-ce que la justice française accueillera ce recours et le jugera fondé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que la question peut se poser et je trouve ça très courageux de sa part de le faire.
Il y avait déjà eu la mort en prison, le suicide en prison de Jean-Luc Brunel, qui lui aussi était propriétaire d'une agence de mannequins, qui lui aussi était présumé être un rabatteur pour Jeffrey Epstein. Il y a maintenant la mort assez énigmatique de Daniel Siad, puisqu'on n'en connaît pas encore les causes. Est-ce que vous trouvez que ces décès sont suspects, sans tomber forcément dans une théorie du complot, mais est-ce que vous trouvez ces décès suspects? L'avocate de Daniel Siad juge justement extrêmement surprenante sa mort en disant qu'il n'avait pas de raison spécialement de se suicider.
Alors, évidemment, on peut se poser la question, surtout qu'au-delà de ces deux décès, il y en a d'autres. Il y a eu des victimes aux États-Unis qui sont décédées d'overdose accidentelle pour la thèse publique.
Et on rappelle que Jeffrey Epstein, lui aussi, a été retrouvé mort dans sa cellule aux États-Unis.
Également, on a eu une de ces victimes qui se serait suicidée. Je trouve que dans ce dossier, ça fait beaucoup de suicidés. Après, évidemment, on peut le penser, on peut s'interroger, mais on n'a pas d'éléments aujourd'hui pour nous dire que de toute façon, la mort de M. Siad ne serait pas naturelle. Et j'ai envie de vous dire, j'espère qu'elle est naturelle, parce que sinon, si vous avez des personnes qui souhaitaient témoigner, je pense que plus aucune ne témoignera.
Qu'est-ce que vous attendez de l'enquête désormais? Alors, les investigations concernant Daniel Siad s'arrêtent, mais est-ce que l'enquête peut malgré tout continuer?
Oui, elle peut continuer sur le volet de la traite des êtres humains en bande organisée, qui dit d'avoir visé justement cette circonstance aggravante, laisse penser qu'on a un réseau et donc plusieurs personnes. Et c'est là qu'il va y avoir un tournant de cette enquête, c'est déterminer quels sont les autres protagonistes qui ont participé à cette traite des êtres humains.
Merci d'être venu ce matin sur RMC et RMC Story. Nathalie Buquet, avocate, membre de l'association Innocence en danger. Et vous nous dites ce matin au moins une des plaignantes dans cette affaire va engager une procédure contre l'État pour déni de justice. Merci beaucoup. Il est 7h23. L'économie, dans un instant, avec Emmanuel Lechypre. Bonjour Manu, l'État va vendre les bijoux de famille?
Oui, ou optimiser la gestion de son patrimoine. C'est selon.
Les détails dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
À la rentrée, on garde la tête froide.
Et on s'équipe à prix coûtant chez Conforama. Dans le genre prix bien refroidi, le réfrigérateur Samsung avec écran tactile en façade est à seulement 493,63€. Jusqu'au 24 août, voir conditions sur Conforama.fr.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h24 et c'est l'heure de l'économie.
RMC.
Le chiffre du jour.
Le chiffre du jour d'Emmanuel Lechypre, c'est 25%. L'État qui veut vendre 25% de son parc immobilier d'ici à 2032.
Oui, le Parlement a entériné mardi soir la création d'une société immobilière publique chargée de gérer l'immobilier de l'État. Alors son rôle consistera donc à optimiser la gestion, la location de tous ces biens aux ministères, aux administrations, aux services de l'État, à des acteurs privés, mais aussi à acheter et à vendre des biens. Alors évidemment, certains crient au scandale, notamment à gauche, on vend les bijoux de famille pour payer nos dettes. Certains y voient au contraire l'opportunité de mieux rentabiliser un patrimoine parfois jugé vétuste ou mal exploité. L'objectif, c'est bien de réduire de 25% le parc immobilier de l'État d'ici à 2032. Un parc immobilier estimé aujourd'hui à 75 milliards d'euros et dont l'entretien coûte chaque année 9 milliards.
Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce patrimoine public ?
Alors, l'État dispose au total d'un parc de près de 96 millions de kilomètres carrés de surface bâtie, ce qui représente plus de 190 000 bâtiments, nous dit la Cour des comptes. Alors, il s'agit de locaux administratifs, de bureaux, mais aussi de logements et de casernes, casernes de pompiers, de police, de gendarmerie, par exemple. Le ministère de l'Intérieur représente à lui seul plus de 20 000 implantations sur le territoire. Et puis surtout, l'État possède également plus de 42 000 kilomètres carrés de terrain non bâti. Vous savez ce que ça représente, 42 000 kilomètres carrés de terrain non bâti? Ça représente la superficie de la Suisse ou des Pays-Bas. Donc, vous voyez, on a quand même des terrains qui sont possédés par l'État et qui ne sont pas exploités. Donc, il y a sans doute moyen d'optimiser la gestion de tout ça et d'économiser quelques milliards par an sans dire que, comme on dilapide notre patrimoine.
Ça y est, vous avez trouvé la solution pour sauver la France.
Il n'y aura pas une solution pour trouver la France, mais beaucoup de petits ruisseaux qui finiront par faire une grande rivière dans les économies de dépenses publiques.
Emmanuel Lechypre, merci, on se retrouve après le journal de 8h, on parlera des prix du carburant et le plafonnement des prix dans les stations Total qui va continuer avec les prix qui augmentent.
Et on connaîtra les profits de Total pour le deuxième trimestre.
Tout à fait. Alors, on va partir au 32-16 avec Franck qui est avec nous depuis la Loire-Atlantique. Bonjour Franck.
Bonjour.
Bienvenue Franck au 32-16 et sur RMC, c'est Zidane qui vous fait réagir ce matin puisque ça y est, on sait qu'il sera bien le sélectionneur des Bleus mardi prochain. Vous êtes content, heureux, c'est l'homme de la situation ou pas ?
Alors, content, oui, parce que en tant que joueur, forcément, c'est un très grand joueur mondial, un des meilleurs joueurs mondiaux qu'on ait connu, sauf que pour moi, ce n'est pas forcément un problème technique ou tactique, c'est surtout un problème de comportement. Et là, je pense que Deschamps était vraiment l'homme de la situation. En trouver un autre, je sais pas, c'était peut-être pas forcément facile, mais...
Pourquoi vous dites comportement? Vous pensez à quoi? Vous pensez au fameux coup de boule ou...
Alors non, comportement de Zidane, bon, c'est voilà, en tant que joueur, ça me paraît parfois normal quand on voit les agressions de certaines équipes ou de certains joueurs. Il fallait être costaud pour certains joueurs de l'équipe de France qui ont été agressés contre le Paraguay ou voire contre le Maroc. Enfin bon, il y a des situations complètement dingues. Mais le problème de Zidane, c'est que si jamais il a des comportements de joueurs comme, par exemple, si je peux me permettre de dire Cherki, qu'on voit à la télé, lorsque Deschamps le sort à la mi-temps avec Hernandez, allongé sur le bord du terrain avec les tongs et allongé sur son sac, je trouve ça lamentable.
En fait, l'interrogation que vous avez, c'est de savoir s'il gérera aussi bien que Didier Deschamps les personnalités et les comportements des uns et des autres dans le groupe. Merci beaucoup, Franck, d'avoir composé le 32-16 ce matin. Et vous continuez de réagir, bien sûr. On lit aussi tous vos messages sur le WhatsApp RMC. Dans un instant, la météo et le journal.
RMC. Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Le sud de la France face aux incendies, celui du Var, toujours pas fixé ce matin et la météo s'annonce défavorable. Et situation également compliquée dans le secteur d'Arcachon où un incendie a déjà parcouru 2000 hectares. 12 000 personnes ont dû être évacuées ces dernières heures. La coordination rurale appelle à la désobéissance. Elle incite les agriculteurs à ne pas respecter les restrictions d'eau pour sauver leur culture. Et sur le Tour de France, la chasse n'est pas seulement au maillot, elle est aussi aux pins. Les collectionneurs sont à l'affût.
Charlène nous le disait, le Mistral est attendu aujourd'hui. L'inquiétude donc dans le Var où le feu n'est toujours pas fixé.
Ce feu qui a parcouru plus de 2500 hectares ne progresse plus dans le secteur de Cotignac et 1200 pompiers toujours mobilisés, épaulés de Canadair. Anna Jaujard, vous êtes notre correspondante RMC dans la région et vous êtes ce matin en direct de Montfort-sur-Argent. Le village a accueilli ces dernières heures des sinistrés. Hein.
Oui, cette commune a été plutôt épargnée par le feu jusqu'à présent, mais il y a quand même eu des évacuations préventives. Une salle municipale a été mise à disposition pour accueillir les habitants qui sont en ce moment en train de dormir sur des lits de camp montés pour l'occasion. Alors parmi les lève-tôt, j'ai croisé Jacqueline qui a eu ordre d'évacuer sa maison. Elle a dormi dans sa voiture avec ses deux chiens ce matin. Elle s'inquiète des conditions météo de la journée.
Il va faire 36 avec le Mistral. En plus, un vent qui souvent tourne. Donc, les pompiers sont d'un côté et puis ben, le feu reprend de l'autre. Enfin, ça tourne, c'est horrible, quoi. Je me dis, si ça se trouve, on va rentrer chez nous, il n'y aura plus de maison.
Et en effet, en même temps que le jour se levait, le vent aussi commençait doucement à souffler sur la commune. Un vent qui inquiète les autorités et les pompiers, car il va se renforcer dans la journée. Il est attendu des rafales jusqu'à 60 km/h dans l'après-midi, ce qui pourrait réactiver le feu à certains endroits.
Anna Jaujard, en direct de Montfort-sur-Argent dans le Var pour RMC. Cet incendie très virulent en Gironde, il avance à une vitesse spectaculaire entre le Cap Ferret et la Cano. Il mesure 15 km, 2000 hectares brûlés, 12 000 vacanciers, habitants évacués. Parmi eux, Bénédicte, habitant de la Génie, a passé la nuit à la Cano après avoir dû quitter son logement.
Hier, en rentrant de la plage, on a vu la fumée, puis on a regardé sur Internet, et on voyait que le feu n'était pas maîtrisé. On s'est dit, bon là, c'est pas bon, donc on a fait nos valises, on s'est quand même couché, on a été réveillés, et tout s'est bien passé au fond. Là, on est en sécurité, mais l'émotion d'être réveillé en plein sommeil, de devoir quitter, pourvu qu'on puisse retourner, que l'incendie s'arrête.
Et dans ce contexte de feu, de chaleur et de sécheresse, cet appel choc ce matin de la coordination rurale.
Leur message, irriguez-vous pour vous sauver. Objectif, inciter les agriculteurs à braver les restrictions d'eau alors que 91 départements sont concernés par les limitations d'usage. Le syndicat alerte sur la survie des exploitations face à la sécheresse, Stéphane Dubuard.
Dans le département du Lot-et-Garonne, depuis le 11 juillet, un arrêté préfectoral limite l'irrigation des cultures agricoles. En période de sécheresse, impossible de compter les litres d'eau versés sur ces champs, explique Vincent Rigaud, céréalier et membre de la coordination rurale.
On n'irrigue pas pour le plaisir, quoi. Là où il n'y a pas de moyens d'irrigation, il n'y aura peut-être pas du tout d'épis, pas du tout de grains, quoi. Quoi qu'il se passe, on irriguera.
Risquer 7 550 euros d'amende pour sauver 30 à 50% de sa production, dit-il. Ce type de décision pourrait avoir des conséquences sur tout l'écosystème, alerte l'hydrologue Charlène Descolonges.
En faisant ça, il y a un risque immédiat sur les rivières qui peuvent s'assécher totalement. Il y a l'effondrement de niveau des nappes et donc les autres usagers sont affectés, oui.
Depuis le 15 juillet, ce sont 99 départements qui sont concernés par ces restrictions d'eau.
Et ça vous fait réagir hein, depuis tôt ce matin au 3216 et sur le WhatsApp RMC, cet appel à désobéir de la coordination rurale. Est-ce du pur égoïsme et de l'accaparement de l'eau des agriculteurs ou une décision indispensable pour sauver leur activité? On en débat tous ensemble. On vous attend au 3216 sur le WhatsApp RMC. C'est le 0612 424 424.
Et Barbara Bouche va déposer plainte contre LFI après l'interruption il y a 5 jours de son concert à Grenoble. Une nouvelle démonstration de force ou une opération de communication des individus cagoulés se présentant comme membres de la DZ Mafia ont diffusé une vidéo pour nier toute implication dans les menaces visant le maire d'Alès. Une prise de parole rarissime alors que l'élu est désormais sous protection après des menaces jugées suffisamment crédibles pour déclencher une intervention à des autorités. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations.
7h35 sur RMC, les Français de plus en plus méfiants pour réserver leurs vacances en ligne.
Alors que 6 Français sur 10 réservent déjà leur séjour sur Internet, les fausses annonces se multiplient. Résultat, 8 sur 10 se méfient davantage et vérifient désormais deux fois avant de cliquer. Alexandre Thibault.
Pour partir avec ses enfants en Espagne et éviter les frais d'agence, Virginie a réservé son logement en ligne.
J'avais vu donc toutes les photos et j'étais très attirée par cet appartement.
Mais en arrivant sur place après plusieurs heures de voyage,
c'était plus du tout le même appartement. C'était plus petit, sur une rue très bruyante. Je m'attendais à des jolis meubles. Je m'attendais à voir ce que j'avais vu quand je réservais. Ça, c'était la surprise.
Elle a retrouvé le sourire depuis et réserve ses vacances en ligne, mais avec vigilance. C'est aussi le maître mot de Dominique. Il vérifie tout sur chaque annonce.
Alors les avis en premier, mais j'essaie de voir si la photo, je peux pas la retrouver autre part, parce que les photos, souvent, c'est des banques de photos, enfin en tout cas quand il y a souci.
Autre conseil, si le loueur vous incite à passer sur un autre site pour payer, prudence, alerte Jérôme Notin, expert en sécurité numérique et directeur de cybermalveillance.gouv.
Il est important de rester toujours sur la plateforme sur laquelle on a identifié l'annonce, ce qui permettra, si l'annonce n'existait pas, eh bien de se retourner contre la plateforme qui a toutes les assurances qui vont bien et qui procédera au remboursement.
Sa dernière astuce, dans la mesure du possible, rencontrer le loueur en personne.
Allez, on part sur le Tour de France où une forme de chasse au trésor a été lancée.
Oui, après avoir séduit les délégations olympiques, le troc du Pins débarque dans la caravane du Tour. Les marques lancent leurs propres Pins et Kevin Morand, les collectionneurs, se les arrachent.
Oui, Jade distribue chaque matin des goodies au départ.
On donne ses macarons à tous ceux qui ont les Bob FDJ.
Cette jeune salariée de la caravane FDJ United arbore une quinzaine de pins différents.
Mon but, c'est de tous les avoir. Là, je crois qu'il m'en manque deux. Parcas de Rix et Leclerc le chat. C'est un peu inspiré des JO, mais ça permet de tous se rencontrer. C'est trop, trop cool.
Un melon pour une enseigne d'hypermarché, une cafetière ou un pot de yaourt. Ces pins sont inspirés des véhicules de la célèbre caravane. Une idée lancée par l'agence événementielle Idéactif qui travaille pour une dizaine de marques présentes sur la grande boucle. Jean-Marc Gidès, son directeur général.
On ne s'attendait pas du tout à cet effet de mode. Ça marche tellement bien qu'on va en refaire avant le départ du féminin parce qu'on n'en a plus assez. Il y en a un qui est très très rare. Et le Charles Leclerc, tout le monde se bat pour l'avoir.
Des sponsors d'équipe ont également lancé leur collection.
Je vous en donne quelques-uns.
C'est le cas de la FDJ United. Lenny Le Derf, responsable partenariat de la marque.
On essaye un petit peu de faire connaître notre équipe, nos coureurs. Ça permet d'accessoiriser l'accréditation. Les goodies qu'on distribue avec notre chapeau aventurier.
Si la FDJ distribue les siens aux spectateurs, les pins de la caravane, produits à quelques milliers d'exemplaires, s'échangent essentiellement entre les accrédités du Tour de France.
Et le peloton, lui, s'attaque aujourd'hui aux Alpes entre Voiron et Orcières. Étape longue de 185 km. Intégral Tour dès 14h sur RMC.
Et pour le Quintet, ce sera à Vichy aujourd'hui.
Ouais, c'est le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori, et le 4, son outsider. Et le 6.
Clément Gouitz pour le journal sur RMC. Il est 7h38. On vous parlait de cet appel à la désobéissance lancé par la coordination rurale. D'ailleurs, leur représentant sera avec nous juste après le journal de 8h. Leur président même qui assume cette forme de désobéissance. On continue d'irriguer malgré les restrictions d'eau pour sauver nos récoltes. Ça fait réagir et ça fait réagir au 32-16. Olivier qui est avec nous. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous en pensez de cet appel? Vous êtes dans l'Ain, hein, c'est ça?
Dans l'Ain, exactement. Donc chez nous, c'est exactement pareil. Hein. Je suis juste au nord de Lyon, si vous voulez, et on a exactement les mêmes restrictions qui commencent à arriver. Pour moi, c'est de la foutaise, comme pas mal de choses de toute manière, puisque on est quand même encadré par deux fleuves qui sont le Rhône et la Saône, qui débitent quand même des millions de litres. Donc nous dire qu'il n'y a pas d'eau dans notre secteur, c'est quand même de la foutaise.
Enfin, c'est pas basé sur rien quand même, ces restrictions d'eau. Elles sont quand même basées sur des études scientifiques très précises, sur le niveau des nappes phréatiques, par exemple.
Donc moi, j'ai une partie agricole, j'ai un puits qui descend quand même à 50 mètres, et on a quand même des capteurs de niveau. Quand l'an dernier, on me disait qu'il n'y avait plus d'eau, alors qu'ils avaient pompé l'eau à 20 mètres par rapport au niveau du sol, je me dis que, je sais pas, on me disait, il y a plus d'eau, et étonnamment, je pompais à 20 mètres seulement, alors que mon puits descend à 50 mètres.
Donc, vous comprenez ces agriculteurs qui disent, la préfecture a beau dire, on respecte pas la consigne.
Exactement. Parce que, de toute façon, c'est comme d'habitude. Le but, c'est justement que les agriculteurs français ne puissent plus produire assez, et comme ça, on fera venir toute la céréale d'Ukraine et des pays étrangers, comme d'habitude.
Et vous pensez pas que c'est une forme un peu de chacun pour soi?
Non, je pense qu'il faut faire un peu de protectionnisme. Il faut un petit peu, à un moment, sauver nos éleveurs et nos agriculteurs français et arrêter de faire venir des produits qui respectent aucune norme et qui, dans leur pays, je pense qu'ils se soucient pas des problèmes d'eau. Hein. À mon avis, C'est comme pour beaucoup de choses. On ne s'inquiète pas des soucis de santé des gens, des soucis d'eau. Je pense qu'on a quand même une agriculture en France qui est quand même relativement dans les clous.
Sauver voilà, l'agriculture, ouais. C'est ce que vous nous dites, Olivier. C'est ce que dit aussi la coordination rurale. Si ça vous fait réagir, bien sûr, vous venez répondre à Olivier. On vous attend au 32-16. Le débat continue. Il est 7h40. Merci, Olivier.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on revient dans un instant sur ces chiffres de la surmortalité, des chiffres jamais vus depuis la canicule de l'été 2003. En l'espace de 15 jours, fin juin, 5700 décès constatés en France. 5700 décès de plus que la normale. Bonjour Mathias Vargon.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre ce matin. Vous êtes médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis. Vous étiez déjà d'ailleurs sur le terrain en 2003.
Ah ouais.
Est-ce qu'on gère mieux aujourd'hui? Est-ce qu'on est vraiment préparé à d'autres épisodes? On en parle dans un instant sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
5700 décès en deux semaines. Le nouveau bilan de la canicule du mois de juin. Ça n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans. Bonjour Mathias Vargon.
Bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis. Merci de nous rejoindre ce matin en direct sur RMC et RMC Story. Près de 6000 morts, donc supplémentaires hein, par rapport à la normale. Le chiffre a été communiqué hier par Santé publique France. La moitié sont décédés en seulement 3 jours sur les 3 journées les plus chaudes et en grande partie notamment en Île-de-France. Ces morts, est-ce que selon vous, ils auraient pu être évités?
Ah, j'en sais rien. En réalité, il a fait très chaud. Est-ce qu'ils auraient pu être évités? Probablement qu'une partie aurait pu être évitée s'ils avaient pu être refroidis avant, c'est-à-dire vivre dans des conditions un peu moins difficiles. La chaleur qu'il y a eu, qui était quand même absolument insupportable. Mais d'un autre côté, il y a eu moins de morts qu'en 2003. C'est d'un côté la société qui est pas mieux organisée qu'en 2003, avec toujours pas de clim, toujours pas de rafraîchissement pour les personnes âgées qui habitent seules à domicile, des gens qui font un peu n'importe quoi quand même quand ils sortent et qu'il fait très chaud. Et de l'autre côté, c'est les pompiers qui sont mieux organisés avec la prise en charge, enfin les pompiers, les services de secours qui sont mieux organisés avec les prises en charge des patients à l'extérieur, notamment en rafraîchissant directement les patients chez eux avec des baignoires, avec des glaçons, et puis les hôpitaux derrière qui étaient mieux organisés qu'en 2003. Donc d'un côté, la société a-t-elle fait des progrès sur la gestion de la canicule? Je ne pense pas. Est-ce que les services de soins, les services de santé, les EHPAD aussi, c'est ça le rafraîchi? Alors, c'est pas l'idéal parce qu'il y a encore des chambres qui sont pas rafraîchies. Dans les hôpitaux, il faisait très très chaud. Chez nous, il faisait 34 degrés dans les chambres. Mais malgré tout, l'organisation des services de santé, elle, s'est largement améliorée en 20 ans.
Ouais. Et l'angle mort, en revanche, c'est les personnes qui sont décédées à domicile. On les a un peu oubliées. Les personnes isolées.
En réalité, c'est la même chose qu'en 2003. Hein. En 2003, on avait découvert fin août, début septembre, des tas de gens qui étaient morts tout seuls chez eux. Donc, je crois que les mairies ont fait plus d'efforts qu'auparavant. Mais
les listes n'étaient pas à jour dans beaucoup de communes. On s'est rendu compte que les listings n'étaient pas prêts.
Mais après, c'est aussi qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Ok, vous savez qu'ils sont isolés, il fait quand même 40 chez eux, il fait 40 la nuit, quoi. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on s'équipe et comment on résiste à la chaleur. Et nous aussi, hein, dans les hôpitaux, c'est comment on s'équipe. C'est-à-dire que clairement, il va falloir climatiser les hôpitaux. Je crois que maintenant, c'est clair. Alors que
justement, ces clims qui ont été promises par le gouvernement, est-ce que vous les avez vus arriver dans votre hôpital?
On a eu quelques clims, mais de toute façon, c'est pas la solution. Quand vous mettez une clim mobile dans une chambre où il fait 40 et qui est une grande chambre, la clim mobile, elle peut pas faire le boulot. En fait, c'est pas le bon équipement. Alors c'est très bien, on le met devant le patient et quand même, hein, c'est mieux que rien. Mais c'est pas une solution de fond. Comme d'habitude, c'est un pansement à un moment.
C'est du bricolage, quoi.
Bah oui, mais il va falloir repenser les travaux. Hein. Chez moi, dans mon service, on doit refaire les urgences. Il y a quelques mois, il n'était pas question de climatiser. On allait dire, on va rafraîchir. Bon, c'est nul le rafraîchissement, tout le monde le sait maintenant.
Et malgré tout, vous dites, l'hôpital a tenu.
Ah, l'organisation de l'hôpital, bien sûr, a tenu, pas que dans mon hôpital, dans tous les établissements. Il y avait des cellules de crise, il y avait une organisation médicale et administrative. On a quand même commandé des clims, des ventilos sans problème. On s'est réorganisé, on a rouvert des lits, on a changé des patients de place. Chez nous, on a passé des patients de la médecine dans le service de chirurgie de jour. Dans l'hôpital de jour de chirurgie, on l'a fait un week-end. On a déménagé une partie d'un service de façon à offrir un peu du frais aux patients.
Donc, ça veut dire qu'en gros, on apprend en avançant, on a appris en 2003, on aura appris de 2026, forcément.
Oui, on a appris du Covid surtout. Parce que le Covid, ça nous a, hélas, permis de nous apprendre, d'apprendre à gérer la crise. Oui, oui, tout à fait.
On est prêt donc pour les si une nouvelle vague se déclenche la semaine prochaine ou dans 15 jours.
Là, la question, c'est qu'on va rentrer dans la période un peu dure où tout le monde part en vacances et les personnels des établissements aussi partent en vacances. Alors nous aussi, on a une garde. Moi, je vais partir en vacances et d'autres vont me remplacer. Mais c'est vrai qu'il y aura un peu moins de.
Ça veut dire que des lits vont fermer, voire certains services d'urgence ferment pendant l'été.
Ouais, alors ça, c'est une autre problématique. La fermeture des services d'urgence l'été, c'est une autre problématique qui se reproduit tous les ans depuis quelques années. C'est un problème de personnel des urgences, un problème de médecins, un problème de gestion de qu'est-ce que doivent faire les médecins, qu'est-ce que doivent faire les SAMU, qu'est-ce que doivent faire les SMUR. Ça, c'est un autre problème. C'est pas le même problème que la canicule. Mais il faut bien que les personnels des hôpitaux partent en vacances. Et malgré tout, dans beaucoup d'hôpitaux, il y a moins de patients aussi pendant les vacances.
Mathias Vargon, la Haute Autorité de Santé, il y a quelques jours, s'est prononcée pour appliquer l'obligation vaccinale à tous les soignants cet automne pour la grippe. Vous y êtes favorable? Vous dites à la ministre de la Santé qui sera là tout à l'heure, il faut y aller, il faut mettre
Merci
en place cette
Stéphanie.
Obligation.
Ouais, tout à fait. Moi, je suis absolument pour. Alors, à chaque fois que je dis ça, je me prends des tonnes d'insultes, de menaces. La dernière fois que j'ai dit ça, je crois que c'était sur BFM, où on a parlé de l'obligation vaccinale chez plus de 65 ans et chez les soignants, j'ai eu 500 plaintes au Conseil de l'Ordre. CNews s'en est pris à moi, Pascal Pro, et de façon assez marrante, j'ai eu même un député LFI qui s'en est pris aussi à moi, qui s'est associé à une plainte de plutôt de Philippe Autiste, tout en me traitant de progénocide.
Il n'y a que 20% des soignants qui se vaccinent contre la grippe aujourd'hui. Pourquoi c'est aussi éruptif?
Pourquoi c'est aussi éruptif? Parce que, alors, chez les médecins, c'est pas aussi éruptif. Il y a quelques médecins qui ne veulent pas se faire vacciner, mais la plupart des médecins sont OK pour se faire vacciner. Après, il y a des questions d'organisation. Mais chez le personnel de santé, plus vous éloignez de la médecine, plus les gens sont gagnés par les idées anti-vax, en fait. C'est depuis le début des années 2000. Et puis, le fait que le gouvernement, pendant très longtemps, a hésité à rendre la vaccination antigrippale obligatoire, en fait, les gens se disaient, si c'est pas obligatoire, soit c'est que c'est pas si bien, soit que c'est pas si important. Et donc, oui, c'est très bien que la HAS se soit enfin déterminée sur l'obligation vaccinale. Ça va rendre les choses beaucoup plus claires et ça va protéger les patients.
Je poserai tout à l'heure la question à la ministre qui sera là dans
moins
d'une heure.
Non, mais il faut le redire, ça va protéger les patients, notamment les plus âgés, parce que l'argument des anti-vax, c'était de dire que ça protégeait pas bien les personnes âgées, ce qui est vrai, parce qu'ils ont une immunité qui est moins forte.
Merci.
Et donc, ça va les protéger par les soignants.
Merci beaucoup, Mathias Vargon, d'être venu ce matin sur RMC, RMC Story, médecin urgentiste. En Seine-Saint-Denis, il est 7h51. Dans un instant, c'est le portrait du jour, Victor Pourchet.
Peut-être l'influenceuse la plus puissante du monde, girouette, complotiste et admirée par Donald Trump.
A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
7h53, le portrait du jour avec Victor Pourchet. Victor, vous nous parlez de cette influenceuse qui souffle à l'oreille de Donald Trump.
Oui, Laura Loomer, 33 ans, profession complotiste en chef auprès du président des États-Unis. Rapide présentation, islamophobe assumée, ou plutôt fière islamophobe, ce sont ses mots. Raciste et menteuse, c'est elle, entre autres, derrière la fake news selon laquelle les Haïtiens de l'Ohio mangeraient des animaux domestiques. Sa petite touche personnelle, c'est d'avoir rajouté qu'ils étaient aussi cannibales.
Et pourtant, vous nous dites qu'il faut l'écouter.
Et pour une bonne raison, parce que Donald Trump le fait, et attentivement en plus, comme les quelques 2 millions d'abonnés sur Twitter de Laura Loomer. Exemple le plus saisissant, en avril 2025, quand en l'espace d'une seule entrevue, Laura Loomer le convainc de licencier une poignée de hauts responsables de la NSA, la célèbre agence américaine de renseignement.
Et son dernier retournement de veste, c'est sur l'Ukraine.
Et Laura Loomer était à Kiev, figurez-vous, ces derniers jours, pour montrer son soutien aux habitants de Kiev, ces mêmes habitants qu'elle qualifiait de nazis il y a quelques temps. La voilà désormais posant à la terrasse du McDonald's de la capitale ukrainienne, dénonçant, je cite, le mépris russe pour l'Amérique. Tout cela juste après que les États-Unis ont accordé à l'Ukraine le droit de fabriquer les tant redoutés missiles patriotes américains. Le bureau de Volodymyr Zelensky ne s'y trompe pas. Il salue sa venue. Il est important que Laura Loomer voie de ses propres yeux ce qu'il se passe ici, écrit-il. En pleine guerre, il n'y a pas de petite victoire ni de mauvais alliés.
Le portrait du jour. Laura Loomer avec Victor Pourchet. Merci Victor. 7h55, allez, on va voyager en France.
RMC.
dans vos villes.
Tout l'été, on continue de parcourir la France à la rencontre de vos maires, élus ou réélus au mois de mars. Ce matin, nous sommes dans les Yvelines à Carrières sous Poissy. Le maire sans étiquette Eddy Haït a été réélu avec une promesse, lancer une carte pour les 1300 familles monoparentales de la commune, notamment les mamans solo, pour leur donner accès à des aides spécifiques. C'est Marion Gauthier qui s'est rendue dans le centre de santé municipale.
C'est là que le maire nous emmène pour présenter ses 21 mesures. Faciliter l'accès aux droits, à l'emploi ou aux places en crèche, des promesses et un statut déjà créé comme un symbole pour Eddy Haït.
J'aurais aimé pouvoir identifier cette problématique plus tôt, évidemment. Je fais le choix personnel d'engager des démarches d'adoption et donc la question de la famille est devenue une réalité plus forte encore dans mon parcours de vie et je me suis dit que ce regard nouveau doit aussi servir d'autres.
On va aller avec une maman, une maman qui a beaucoup participé à l'élaboration du statut, du plan. Maï, bonjour.
Bonjour.
Quand le maire est venu vous voir, qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
Ben, je me suis dit enfin, on a une reconnaissance, enfin on pense à nous, enfin on nous voit. J'ai 3 enfants, j'ai 39 ans et c'est un parcours du combattant tous les jours. Quand nos enfants ont chacun leurs activités, il faut se diviser en 3.
Et vous pouvez pas avoir de temps plein ?
Et non, j'ai fait mes études dans le commerce, j'ai un bac plus 4. J'ai dû en fait revoir complètement ma vie professionnelle pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Aujourd'hui, je suis assistante à un club de foot de la ville de Carrières-sous-Poissy. J'ai moins de contraintes.
Mais la mère de famille coquette et souriante gagne seulement 900 euros par mois. Son salaire de cadre était de 3000 euros.
Je rentrais la plupart du temps, ils étaient déjà couchés. On culpabilise parce qu'on a l'impression de ne pas faire partie de la vie de nos enfants. Donc il a fallu faire un choix à un moment.
Maï espère que ce statut changera vraiment sa vie. J'attends de voir, souffle-t-elle.
On a des salles de consultation.
Dans les murs immaculés du centre de santé, Eddy Haït insiste, lui, sur ce pack bien-être. Des séances avec des thérapeutes presque entièrement prises en charge par la mairie.
Il y a des trucs que j'ai découvert. Hein. Il y a l'art-thérapie, naturopathe.
Hypnothérapeute. Ouais. Il me tarde d'intervenir dans ce centre.
Nadine participe au dispositif.
Le bien-être doit être accessible à tout le monde. Ça ne doit pas être une question de finances.
Donc ça, c'est une mesure assez forte dont on est fier parce qu'il faut du temps de répit mental. De la même manière, on met en place une garderie solidaire. Voilà, à un moment donné, vous avez besoin de temps pour vous, mais aussi pour aller pour une inscription, une formation. Et donc, on a un certain nombre de jeunes qui bénéficient d'aide à la ville, qui nous doivent des heures de bénévolat. Donc après formation, ils vont pouvoir tenir cette garderie solidaire ou sur des créneaux dédiés, les mamans solo ou les papas solo pourront déposer un enfant.
Le maire promet encore d'aider à accéder au logement, mais l'écologiste Farid Lounis voudrait ici plus de concret.
C'est dans la relation aux bailleurs sociaux que ces familles-là ne se sentent plus abandonnées. Admettons que demain, la municipalité va accompagner une famille pour retrouver un logement. Au final, cette famille-là se retrouve dans un logement où quand il faut du chauffage, il n'y en a pas. Et quand il fait 35 degrés dehors, en réalité, à l'intérieur, il fait 37. Et c'est ça la principale question.
Malgré tout, l'opposition municipale a voté pour la création du statut qui doit être présenté au Forum des associations début septembre.
RMC dans vos villes, reportage signé Marion Gauthier pour RMC. Dans un instant, le journal de 8h, on va bien sûr retourner en Gironde, faire le point sur l'incendie. Et puis Manuel Chypre pour l'économie.
Mais oui, Total fait de gros profits, mais nous en redistribue une partie.
A tout de suite sur RMC, la météo bien sûr à suivre.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.